VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 18 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia pour commencer les titres. Au Kenya, le président élu William Ruto promet un gouvernement transparent. Au Tchad, la junte au pouvoir interdit une manifestation de l'opposition prévue demain vendredi. En Guinée, au moins 2 morts dans des manifestations mercredi contre la junte au pouvoir. Au Nigeria, grève nationale des salariés des centrales électriques pour réclamer des indemnités. Une Saoudienne condamnée à 34 ans de prison pour des posts sur Twitter. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Kenya, le président élu, William Ruto, a promis hier que sa nouvelle administration serait transparente, affirmant qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour répondre aux énormes attentes des Kenyans. Nani Talani.
Nous allons bientôt prendre des mesures pour diriger un gouvernement transparent, démocratique mais responsable, a déclaré William Ruto aux dirigeants de son alliance Kenya Kwanza, qui signifie le Kenya d'abord. Les attentes du peuple sont énormes et nous n'avons pas le luxe de perdre du temps, a déclaré l'actuel vice-président. Le Kenya est aux prises avec une inflation galopante et un chômage élevé chez les jeunes. Nous allons gouverner de manière à ce qu'aucun secteur ne soit laissé pour compte, a ajouté M. Ruto, affirmant que personne ne serait exclu, quelles que soient ses affiliations politiques ou ethniques. Lundi, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, l'a déclaré vainqueur à la présidentielle du 9 août. 4 membres de cette commission ont rejeté les résultats, disant que les chiffres ne correspondent pas. Mardi, Raila Odinga a qualifié ses résultats de parodie et promis d'utiliser tous les moyens légaux pour les contester. Toute requête doit être déposée d'ici lundi auprès de la Cour suprême, qui aura 14 jours pour rendre sa décision. Si elle ordonne l'annulation, un nouveau scrutin sera organisé dans les 60 jours. S'il n'y a pas de requête, William Ruto va prêter serment dans environ 2 semaines.
Au Tchad, la junte a interdit une manifestation prévue demain vendredi à la veille de l'ouverture du dialogue national. Selon un communiqué du ministre de la Sécurité publique, les organisateurs n'ont pas respecté le délai légal de dépôt Mohamed Oumfa.
La marche ou la manifestation dite pacifique prévue pour le vendredi 19 août 2022 est strictement interdite car la demande n'a pas respecté le délai légal de dépôt qui est de 5 jours francs au minimum selon un communiqué signé par le ministre de la Sécurité publique. Nous avons respecté toutes les procédures demandées. En nous refusant, ils nous poussent à la résistance populaire, a aussitôt réagi Max Loangar, coordinateur du mouvement Wakitama. Ce collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile avait appelé à manifester le 19 août contre le Conseil militaire de transition dirigé par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Wakitama voulait manifester la veille de l'ouverture à N'Djamena du dialogue national qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et la remise du pouvoir aux civils. Avec le soutien laxiste et un brin complaisant de la communauté internationale, et particulièrement de la France, le CMT a tout orchestré pour préparer un dialogue biaisé en écartant les principaux mouvements politico-militaires et les forces vives les plus représentatives, a accusé le collectif dans un communiqué.
Selon un décret signé mercredi par le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, le dialogue national inclusif de samedi sera souverain et ses décisions exécutoires. Il en est le garant, lit-on dans le décret. En Guinée, pendant ce temps, 2 jeunes Guinéens de 17 et 19 ans ont été tués par balle mercredi lors d'une journée de contestation. C'est ce qu'on a appris auprès de proches et du collectif organisateur. Des affrontements ont mis aux prises des dizaines de jeunes et les forces de sécurité dans la banlieue de Conakry, partiellement paralysée à la suite d'un appel à manifester lancé par le FNDC, un mouvement officiellement dissous. Le point avec Génie Noua.
Des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre les policiers et gendarmes déployés en nombre sur la route Le Prince, traversant la banlieue de la capitale. Les forces de sécurité ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Dans différents quartiers, de nombreux commerces et marchés sont restés fermés par crainte de violence. Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, avait appelé à se mobiliser pacifiquement, malgré l'interdiction de toute manifestation par la junte qui a dissous ce collectif la semaine passée. Le FNDC dénonce une confiscation du pouvoir par les militaires et demande un vrai dialogue. Ce collectif a déjà été à l'initiative de 2 jours de manifestation à la fin juillet, qui ont été elles aussi interdites par les autorités et dans lesquelles 5 personnes ont été tués. Depuis, 2 leaders du FNDC, Oumar Sylla, alias Fonike Mangué, et Ibrahima Diallo sont toujours en détention. La CDAO a annoncé la visite dimanche à Conakry de son médiateur, l'ex-président béninois Thomas Boniyahi.
Au Nigeria, les salariés des centrales électriques ont entamé hier une grève illimitée, plongeant le pays le plus peuplé d'Afrique dans l'obscurité. Ils réclament des indemnités à Abdourahmane Dia.
Le syndicat national des travailleurs de l'électricité a appelé à une grève nationale pour contraindre le gouvernement à respecter les termes d'un accord datant de 2019 qui prévoyait le versement de salaire aux travailleurs retraités d'une ancienne société d'électricité publique. Nous avons coupé toutes les centrales et usines électriques dans le pays. Nos membres font actuellement grève dans les centrales et installations exploitées par la TCN, a déclaré le dirigeant syndical Joe Ayero. La menace du syndicaliste est claire, le mot d'ordre ne sera levé qu'une fois que le gouvernement aura satisfait leur demande. La grève a déjà plongé dans le noir certaines régions du pays de plus de 200 millions d'habitants, à Lagos, capitale économique, à Kano dans le nord, ainsi qu'à Port Harcourt, capitale pétrolière dans le sud-est du pays. Les habitants ont rapporté des coupures de courant dès mercredi matin. Il a toutefois ajouté que le syndicat est ouvert aux négociations. Le Nigeria dispose d'une capacité de production de 7000 MW, mais n'en distribue que 4000 aux consommateurs en raison de difficultés techniques provoquant des pannes électriques quotidiennes.
Au Maroc, 13 migrants africains ont été condamnés mercredi par le tribunal de Nador à 2 ans et demi de prison ferme, selon leur avocat, à la suite de la tentative d'entrée en force de près de 2000 d'entre eux fin juin dans l'enclave espagnole de Melilla. Maître Khalid Ameza n'a pas pu préciser la nature des charges retenues, mais ses clients ont l'intention d'interjeter appel. Le drame de Melilla a coûté la vie à 20 de migrants, provoquant une forte indignation dans le royaume et à l'étranger. En Algérie, 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui touchaient hier 14 départements du Nord, ravivant le spectre de l'été 2021, le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays, avec au moins 90 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rencontre ce jeudi les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. À l'ordre du jour, la situation dans le pays, dont la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, presque 6 mois après son invasion par la Russie, dont une frappe mercredi à Kharkiv a fait au moins 7 morts. Il est également question du récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, mais aussi du besoin d'une solution politique à ce conflit, selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. En Arabie Saoudite, un tribunal a condamné une étudiante à 34 ans de prison assortie d'une interdiction de quitter le pays pour une durée similaire après sa sortie de détention, Eric Manerakidza.
Salma Al-Shehab a été jugée coupable d'avoir fourni de l'aide à ceux qui cherchent à troubler l'ordre public et à diffuser des informations fausses et malveillantes en écrivant et en publiant des tweets sur son compte personnel. Doctorante en médecine dentaire à l'université de Leeds en Angleterre, Salma Al-Shehab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu'elle était en vacances en Arabie Saoudite. Avec environ 2600 abonnés sur Twitter, Salma Al-Shehab, âgée de 34 ans, publiait régulièrement des messages en faveur des droits des femmes dans le royaume ultra-conservateur. Et ne pensait pas que son activité sur Twitter pourrait lui causer des problèmes, dit une amie de la jeune femme qui a requis l'anonymat. En juin 2022, un tribunal l'avait condamné en première instance à 6 ans de prison, dont 3 avec sursis, une peine considérablement alourdie il y a quelques jours. L'organisation de défense des droits humains Alkist, basée à Londres, a dénoncé dans un communiqué la plus longue peine d'emprisonnement jamais infligée par les autorités saoudiennes à un militant pacifique.
La Minute Écho, Nanit Kalani.
Il n'y a personne en dehors de l'Afrique qui viendra construire l'Afrique comme nous voulons qu'elle soit construite. Pour cette raison, nous devons créer nos propres poules de ressources de développement. Nous avons déjà les ressources naturelles et minérales qui devraient être plus que suffisantes pour financer tout projet dont nous avons besoin, a déclaré le président du Malawi, Lazarus Chakwera, hier à Kinshasa lors du sommet de la SADC sur l'industrialisation de la sous-région. L'heure est venue de montrer et de dire au monde d'une seule voix que l'Afrique est ouverte aux affaires, mais que l'Afrique n'est pas à vendre, a-t-il ajouté. Le Burundi et la Banque africaine de développement ont signé 3 accords qui s'élèvent à 20 millions d'euros. Ils concernent la réhabilitation du port de Bujumbura pour améliorer le réseau de transport régional afin de stimuler le commerce et contribuer à la croissance économique de la région. Ils veulent aussi développer les capacités des petites et moyennes entreprises et du secteur privé et la production agricole d'urgence. Terminons par le Kenya qui vient d'introduire la loi sur le dédouanement électronique avec guichet unique pour combattre l'évasion fiscale. La nouvelle plateforme permet à toute personne impliquée dans le commerce et le transport de déposer électroniquement tous les documents concernés pour traitement et approbation de toutes les exportations et importations. Les contrevenants risquent jusqu'à 500 000 shillings d'amende et 1 an de prison.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Burkinabé Issa Kabore rejoint l'Olympique de Marseille.
Oui, le jeune latéral droit burkinabé a été prêté par Manchester City à Marseille, dont il est la 10e recrue cet été. Issa Kabore, qui est âgé de 21 ans, sera le concurrent à droite de Jonathan Klaus, lui aussi recruté cet été pour occuper l'un des postes piston essentiels dans le dispositif de Igor Tudor. La saison dernière, il avait été prêté à Troyes, club membre du City Football Group, qui regroupe plusieurs clubs satellites de Manchester City. Le nouveau joueur de l'OM compte déjà 34 sélections avec le Burkina Faso et a été élu meilleur jeune de la dernière CAN disputée au début de l'année au Cameroun. L'Olympique de Marseille n'a pas précisé si une option d'achat était attachée auprès de Issa Kabore.
Cristiano Ronaldo promet sa vérité sur sa situation.
La star portugaise dont l'avenir à Manchester United fait l'objet d'intenses débats a promis sur Instagram de bientôt dire sa vérité tout en s'en prenant aux médias qui ne racontent que des mensonges selon lui. Dans une réponse à la publication d'un fan, le Portugais a écrit dans sa langue natale que les supporters connaîtront la vérité quand il donnera une interview dans quelques semaines. Le quintuple Ballon d'Or de 37 ans qui a encore 1 an de contrat à Man U avait séché la reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis la tournée en Asie et en Australie. Il a eu des problèmes familiaux, avait alors indiqué Bruno Fernandes, son coéquipier portugais. Cette absence avait été vue par de nombreux médias britanniques comme une expression de la volonté de la star de quitter Manchester, 6e de Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des Champions.
NBA, ici aux États-Unis, LeBron James va prolonger son contrat avec les Lakers.
Le contrat de la superstar de la NBA courra dorénavant jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, rapporte ESPN et The Athletics. LeBron James va ainsi prolonger de 2 années supplémentaires, la deuxième étant en option, son contrat avec les Lakers, âgé de 37 ans. Il a accepté une prolongation de contrat d'un montant de 97,1 millions de dollars. Champion NBA avec les Los Angeles Lakers en 2020, il restait à James 1 an de contrat avec la franchise californienne. pour laquelle il doit percevoir 44,5 millions de dollars. Il ouvrira la saison qui vient le 18 octobre sur le parquet des Golden State Warriors, sacré champion en juillet. Cette prolongation, qui comprend une prime de 15% à la signature, ferait de James le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA, avec 532 millions de dollars d'argent garanti, dépassant la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, affirme ESPN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Mali, 18 août 2020, 18 août 2022. Cela fait 2 ans que le régime du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Les auteurs de ce putsch avaient promis, entre autres, de lutter contre le favoritisme et la recrudescence des attaques terroristes. 2 ans plus tard, quel bilan font les Maliens? Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Le 18 août marque l'an 2 du coup d'État perpétré par les 5 colonels. Dirigé dans un premier temps par le duo Bandao Moctarouane, la transition sera à la faveur d'une rupture opérée en mai 2021, dirigée par le colonel Assimi Goïta. La prise de pouvoir par les militaires a-t-elle permis d'améliorer le quotidien des Maliens, selon Arkia Touré, journaliste? Si l'on tient compte du coût actuel de la vie, pas grand-chose a changé.
10 ans après, je crois que la situation reste encore critique au Mali. Sur le plan politique, on a du mal à avancer sur certains points. 10 ans après aussi, il y a eu des situations remarquables, surtout avec le départ de la France. 10 ans après, la sécurité, peut-être il y a eu des acquis sur le plan militaire avec l'acquisition de matériel et d'autres engins, mais la stabilité sécuritaire nécessaire n'est toujours pas revenue.
S'il y a bien un aspect sur lequel les Maliens s'accordent à reconnaître qu'il y a eu des avancées notables, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Alpha Sidiki Sangari témoigne.
La montée en puissance de l'armée est sans conteste. C'est d'ailleurs la seule action positive qu'on peut mettre à l'actif des autorités de cette transition. Même si ça et là, il y a des violences qui aboutissent à la mort des soldats. Mais de façon nette, les nouvelles autorités de la transition ont travaillé à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Il y a eu des nouvelles acquisitions et ces acquisitions continuent.
Le mouvement du 5 juin du Rassemblement des Forces Patriotiques, M5-RFP, à la base des manifestations qui ont abouti au renversement du régime, s'est disloqué après le 18 août. Après le retrait de l'imam Mahmoud Diko, plusieurs leaders, dont Modibo Sidibé, Kounimba Sidibé, Madame Sika Yatousso, viennent de lancer un M5 nouvelle version. Une situation qui, selon Alpha Sidiki Sangari, était prévisible.
Depuis l'origine, et ce mouvement est constitué par des partis, des regroupements qui ne partagent pas forcément la même philosophie, la même orientation politique et idéologique, quoi. Donc la crise qui vit, que le M5 vit, était déjà perceptible, quoi.
Si le nouveau chronogramme électoral est respecté, le Mali aura un président démocratiquement élu à partir d'avril 2024. Mais pendant ces 2 années, il y a toujours eu une seule constante, c'est la détérioration continue des relations avec la France. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Appel aux professionnels des médias en Afrique pour combattre les discours de haine sur le continent et ne pas tomber dans ce qui a été qualifié de piège des impérialistes. Cet appel a été lancé par le Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la CEAC, qui vient de clôturer son assemblée générale au Rwanda, nous dit de Kigali Jean Damascène Manishimwe.
Les participants à cette première assemblée générale du Forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale apprécient le développement des médias sur le continent africain, mais déplorent tout de même des ravages qui rongent la société à travers surtout les réseaux sociaux. C'est ce qu'indique Joachim Banza, membre du Conseil supérieur de la liberté d'expression au Congo-Brazzaville.
Il y a une certaine montée du discours de haine à travers les médias sociaux. Nous ne pouvons pas être insensibles à ce phénomène qui est en train de menacer évidemment la stabilité des sociétés africaines. Les exemples sont là, qui ont prouvé que quand on ne fait pas attention, la société humaine peut basculer dans l'horreur.
Le président en exercice des forums des organes de régulation des médias dans les pays membres de la CIAC, le Camerounais Joseph Tshebonkeng, estime que les médias africains doivent conjuguer leurs efforts pour réussir le combat contre les messages destructeurs.
Comment affronter cette vague qui vient des réseaux sociaux avec les discours de haine, avec l'appel à la violence, avec des mots qui minent notre société aujourd'hui. Et nous croyons qu'en mettant nos efforts ensemble, on pouvait avoir une voix qui porte au niveau international. Parce que ceux qui ont cette plateforme dans laquelle se propagent les discours de haine sont ailleurs. Et si nous nous mettons ensemble, on pouvait avoir une puissance mondiale pour peut-être se plaindre au niveau du Facebook, au niveau de YouTube et consorts.
S'appuyant sur l'exemple malheureux du Rwanda qui a vécu le génocide des Tutsis en 1994, ce forum a fait remarquer que le développement dont jouit l'Afrique aujourd'hui dans le domaine des médias doit être bien utilisé pour le bien des Africains.
Quand on laisse courir le discours de haine, l'homme peut perdre son humanité et devenir comme une bête sauvage qui dévore son semblable. Et c'est ça qu'il nous faut arrêter. Les outils de progrès que nous avons, il faut qu'ils soient mis en œuvre pour être au service justement de l'humanité, du progrès de l'humanité, quelles que soient les oppositions qu'on peut avoir entre nous, les différences de discours politiques. Je crois que le fondamental que nous avons, ce qui doit nous guider, c'est de faire que notre continent soit développé et que les Africains vivent mieux chez eux sur le continent.
Ce forum des organes de régulation des médias dans les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale compte intensifier ses efforts afin d'amener les pays respectifs à soutenir les médias en vue d'avoir une presse africaine pour les Africains. Jean Damasène Manifiné, VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Togo, poursuite de la campagne Semer au naturel contre la dépigmentation et les produits éclaircissants. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Amène Assignon.
Ne change pas la couleur de sa peau, belle femme africaine.
Comme une ode à la femme noire. Ces artistes ont uni leur voix pour célébrer la beauté noire. Le morceau, baptisé Black is Beautiful, prône l'amour de soi et vante la beauté de la peau naturelle. Et c'est essentiellement le message que porte la campagne « S'aimer au naturel ». Lancée depuis 2 ans, elle vise à conscientiser sur les méfaits de la dépigmentation. Alain Mouaka, responsable de Pensée Noire Magazine.
Tout d'abord, il s'agit pour nous de pouvoir sensibiliser les uns les autres. On nous dira aujourd'hui, bon oui, on en parle depuis, mais bon, est-ce que c'est encore un sujet d'actualité? Évidemment, c'est un sujet d'actualité. Il y a certains sondages qui nous diront que le marché des produits éclaircissants est plus élevé que le marché du livre en Afrique. Donc du coup, pour nous, il s'agit déjà de sensibiliser par rapport à cette pratique et ses conséquences sur la peau. Et pas seulement parce que, au-delà d'évoquer justement cette campagne, c'est mieux naturel, pour nous c'est aussi une affirmation, c'est aussi une fierté de notre identité et cette identité représentée par la peau noire que nous avons.
La campagne rassemble des femmes engagées dans la promotion de la beauté naturelle et aussi des artistes pour porter encore plus haut le message. À l'instar de la chanteuse Queen Etemé du Cameroun.
Le message du retour au naturel me touche particulièrement parce que nous voyons que le fléau de la dépigmentation de la peau gagne l'Afrique. Nous voyons des mamans maintenant qui mettent des produits chimiques, des crèmes éclaircissantes sur les enfants. Et nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme sur les dangers qu'entraînent ces crèmes sur la santé de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles. Et nous nous sommes engagés parce qu'il était temps de passer vraiment à un plan de sensibilisation plus énorme pour faire prendre conscience à nos mamans que les cancers de la peau et d'autres maladies qu'entraînent ces crèmes sont le prochain grand fléau de l'Afrique et nous avons besoin de nous mettre ensemble.
Un fléau qui a des conséquences dramatiques sur la santé. Docteur Dovi Tevi Kokwe, dermatologue.
Les pratiques que nous faisons pour dépigmenter la peau ont des effets néfastes sur la peau qui peuvent être déjà visibles dès le début ou au cours de quelques mois et sur les années. Mais ce que nous ignorons, c'est que ces pratiques ont des effets sur notre santé en général. Nous pouvons avoir avec le temps une hypertension artérielle, un diabète ou même un cancer de la peau suite à l'utilisation de ces produits cosmétiques dépigmentants sur le long terme. Donc je pense que la confiance en soi est la clé. Il faut s'accepter et s'aimer.
Les deux premières éditions de la campagne se sont déroulées sur les réseaux sociaux, à travers des lives sur Facebook et YouTube. La troisième édition est prévue en mars 2023. Amena Signon, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Ici aux États-Unis, malgré une série de fusillades de masse, le pays reste divisé sur la réglementation des armes à feu. La Cour suprême a invalidé les lois de certains États restreignant la possession d'armes, tandis que le Congrès a adopté une loi élargissant les contrôles de santé mentale pour les jeunes acheteurs d'armes à feu. Caroline Pressouti de VOA s'est rendue à Bristol, dans le Tennessee, pour savoir ce qu'en pensent les propriétaires d'armes à feu. Son reportage est repris ici par Mohamed Humfa.
Gabrielle avait 17 ans l'an dernier quand elle a été tuée par balle par son beau-père. Le tireur a également tué sa mère, l'ex-femme de Jesse Kennedy, avant de se suicider. Malgré cet épisode, Jesse Kennedy, un ancien policier qui possède des armes à feu, ne soutient pas leur interdiction.
Je crois fermement que la seule façon d'arrêter un méchant avec une arme est un gars bien avec une arme.
Mais il estime que certaines personnes, comme l'assassin de sa défunte épouse, devraient être empêchées d'acheter des armes.
Je ne pense pas qu'il y ait un contrôle profond de la vie et l'histoire de ces acheteurs, surtout pour les armes de ce calibre.
Mads Hapso est heureux d'être au Tennessee, où il peut manier les armes qui lui seraient interdites dans son Danemark natal. Il possède un AR-15, fusil semi-automatique, illégal dans son pays d'origine. C'est le même type d'arme que celle utilisée pour le meurtre de la fille et de l'ex-épouse de Jesse Kennedy. Arme également utilisée dans de nombreuses fusillades de masse, dont celle d'une école d'Uvalde au Texas, qui a tué 21 personnes. Les amateurs d'armes à feu comme Arpso aime la polyvalence, la puissance et la souplesse de l'arme. Autre propriétaire d'armes, Travis McCracken, n'aime pas les lois qui, selon lui, font grimper les prix des munitions. Il pense que les armes portées en public rendent la vie plus sûre.
À mon avis, c'est un élément dissuasif. Ça fait savoir aux autres que si je m'en prends à quelqu'un, il pourrait contre-attaquer.
C'est aussi l'avis de la Cour suprême qui a rendu un arrêt autorisant le port d'armes. Deux jours après cet arrêt, le président Joe Biden a promulgué une loi sur les armes à feu, élargissant les contrôles de santé mentale aux acheteurs de moins de 21 ans. Une loi qui prévoit également la saisie des armes pour les personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour la société. Difficile cependant de savoir si une telle loi aurait sauvé les proches de Jesse Kennedy, qui en doute d'ailleurs.
Il y a des actes qui vont avoir plus d'impact que ce que nous faisons en ce moment.
Même en sa qualité de propriétaire d'armes à feu, il soutient certaines réformes.
Parce que ce que nous faisons en ce moment ne fonctionne pas.
Légiférer sur les armes à feu est un vrai casse-tête aux États-Unis. La possession et le port des armes à feu sont protégés par le deuxième amendement de la Constitution et la NRA, le puissant lobby des armes, veille au respect de cet amendement.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sidoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.